carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Bertrand Gallimard Flavigny.
C'est l'Amator, au centre de la nappe. Dans les représentations des banquets, dans les tableaux anciens, on s'aperçoit de prime abord que les convives disposent d'un tranchoir, d'un couteau et d'un gobelet. Les écuelles et pichets sont parfois alignés en ordre devant chacun d'eux, mais pas toujours, car ils sont souvent déposés sur une desserte. On ne distingue pas d'ornement particulier. Il est vrai que le changement fréquent de service, voire de la table, limitait la décoration qui se bordait à la nappe, aux récipients et aux plats servis. Il arrivait que l'on disposât des brindilles et fleurettes pour agrémenter la vue. Il n'est pas impossible que celle-là était destinée à parfumer l'atmosphère. Il existait toutefois une décoration particulière qui fut en usage en Italie d'abord au milieu du XVe siècle et qui dura jusqu'au milieu du XVIIIe. Ce sont les sculptures en sucre. Celui-ci, je cite, « était moulé dans des formes inattendues selon un répertoire qui n'avait pour limite que l'imagination des artistes chargés de les concevoir. » Ce sont les auteurs de l'histoire de la table qui rapportent cette histoire. Ces auteurs citent la table du banquet offerte en 1667 à Frascati par la princesse Pamphili à Léopold de Médicis à l'occasion de son accession cardinala. Cette œuvre dessinée par Pierre Servin, largement inspirée d'Antiquité classique, est conservée au Musée national de Stockholm. Il semblerait que les centres de table, dits également surtout de table, soient apparus à la Renaissance chez certaines grandes familles ou dans certaines cours européennes désireuses de dévoiler leur face et leur richesse à leurs convives. Ce rôle était dévolu jusqu'à présent aux buffets d'orfèvrerie sur lesquels on exhibait la vaisselle la plus riche qui n'était pas utilisée. Ils trouvèrent leur utilité en réunissant salières, boîtes à épices, huiliers, vinaigriers et sucriers. Leur première description officielle, si l'on peut dire, est inscrite dans le numéro de mars du Mercure Galant, décrivant les fêtes du mariage du duc de Chartres. Au milieu de chacune de ces deux tables ovales, il y avait une grande machine de vermeil, dorée, de nouvelle invention, appelée surtout de table. Outre les lumières que ces machines portent, elles sont remplies de plusieurs vases et ustensiles, le tout fort utile à ceux qui sont à ces repas. L'orfèvre Nicolas Delaunay livra en juillet 1697, je cite, « pour servir sur la table du roi à Marly, deux milliers de tables de vermeil chacun, équipé d'une girandole, quatre sucriers, quatre pavriers à trois séparations, huit enfants. » Huit enfants, c'est-à-dire destinés à dissimuler le jour les bobèches. Et l'on vit de plus en plus dans les cours, à l'occasion des banquets solennels, des pièces d'orfèvrerie ornées des centres des tables. En dehors des cours, on plaça d'abord les surtout de desserts. Ils se composaient le plus souvent de trois plateaux de glace garnis en cuivre, argenté, rehaussé, pour les luxueux, de figures et de motifs en porcelaine ou en biscuit. Un petit centre de table à côté arrondi, le plateau en marbre blanc, incrusté d'onyx, marbre rouge, griotte ou pierre dure en cabochon dont les encadrements à filets rouges, corail et branchages feuillagés, a été adjugé 7 500 € à Drouot le 2 novembre 2011 par la société de vente volontaire Thierry de Maigret. Cette pièce, haute de 4,5 cm de large, de 34,5 cm et profonde de 20 cm, est attribuée à Giuseppe Valadier et date donc de la fin du 18e ou le début du 19e. Il est fort probable que ce surtout ait été rapporté d'Italie par un collectionneur français. Les artistes italiens proposaient à l'époque des créations nettement plus originales et luxueuses. Elles étaient composées de plateaux incrustés de motifs en marbre et de pierres dures polychromes et qui supportaient tout un ensemble d'édifices, figures, éléments d'architecture en marbre et en bronze. On connaît surtout de ce type peut-être le plus célèbre qui fut rapporté de Rome à Paris par le bailli de Breteuil, qui vécut de 1722 à 1785. Ce bailli fut ambassadeur de l'ordre de Malte près le Saint-Siège, puis du roi de France à partir du 1778 jusqu'à sa mort. Le somptueux surtout Breteuil, comme on l'appelle, fut imité par certains amateurs parisiens qui lancèrent la mode de cette décoration de table. On connaît par exemple un surtout exécuté vers 1807-1816 en lapis-lazuli, incrusté de marbre ou de pierres dures, conservé au palais Pitti à Florence. L'histoire des arts de la table fut désormais liée à ces ornements luxueux et aussi simples qu'un bouquet, comme à l'origine.